Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous! Bon, merci Antoine, je suis ravi de passer du temps avec toi. On va passer une heure ensemble pour comprendre un peu ton parcours chez Checkout et plus globalement un peu d'où tu viens et ce que tu fais, ce que tu vas faire un peu dans les prochains mois. La première question pour que tout le monde sache qui tu es, dis-nous un peu ton état civil.
Hello Kamel, merci de me recevoir. Donc Antoine Houguet, 29 ans, Global Head of Sales à Checkout aujourd'hui. Mes rôles ont beaucoup évolué au fur et à mesure des années, mais aujourd'hui, donc, en charge du revenu de nos équipes à la fois de sales, BDR, mais également nos équipes techniques qui aident les marchands à faire l'intégration et à se connecter à Checkout. Voilà.
Super. Donc, on a passé du temps aussi avec Guillaume. Donc, tous ces rôles autour du sales vont être intéressants de voir comment Checkout s'est construit et s'est renforcé sur ces sujets de business. Ce que je te propose pour un peu comprendre un peu ton parcours, c'est de revenir très tôt. Toi, t'es quoi? T'es parisien? Où est-ce que t'as grandi? C'est quoi ton setup de départ par rapport à la techno, par rapport à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tes parents ont fait? C'est quoi le premier chapitre, il ressemble à quoi?
Alors, grandi à Paris, né à Paris également, deux parents entrepreneurs, à la base dans la pub, maintenant dans clean tech, green tech. Mon père avait donc une boîte de pub quand j'étais jeune, ma mère l'accompagnait, il a fait IPO avec sa boîte de pub, il est ensuite parti, et maintenant il gère une sorte de fonds, d'accélérateurs et de cabinets de conseil pour les boîtes dans les green technologies. Il a aussi créé le Clean Tech Open en France et je sais qu'il était notamment proche de Philippe Aya via ce mouvement qui est magnifique d'entrepreneurs, qui est 100 000 entrepreneurs.
Bien sûr.
Voilà. 100 000 donc c'est quelque chose que j'ai suivi depuis que j'étais tout petit, où mon père m'emmenait. Je me souviens, il y avait des sortes de rassemblements à côté de Paris, donc j'ai vraiment baigné dans l'entrepreneuriat depuis que je suis tout petit. Ça m'a toujours fasciné.
Et donc tu as vu en fait ce que c'était que monter une boîte jusqu'à IPO. Donc ça veut dire que c'est quand même une super réussite. Et à une époque où la pub était un énorme business, ça t'a fait peur, ça t'a donné envie,
Ça m'a toujours donné envie parce qu'en fait, je pense que c'était aussi le message que voulait me faire passer mon père, c'est que c'est plutôt cool d'être entrepreneur. Donc, j'ai pas vu vraiment les negative sides. J'ai vu que ça prenait énormément de temps, que c'était très consuming en termes d'énergie. Mais le positif, c'est que on avait des super vacances. J'ai eu tout ce dont j'avais besoin quand j'étais jeune et surtout. Je voyais qu'il avait la capacité de s'adapter à n'importe quel interlocuteur et ça m'a toujours fasciné. Et je pense que c'est vraiment une trademark des entrepreneurs, c'est d'être un peu un caméléon. Et ça c'est vraiment ce qui m'a donné envie de goûter à l'entrepreneuriat. Alors pas en étant founder directement, mais en rejoignant une boîte assez early.
Et donc, tu fais tes études à Paris, où est-ce que tu fais ton collège, lycée?
Alors, je fais mon collège et mon lycée à Saint-Ursule, dans le 17e.
Très bien.
Voilà.
J'étais au lycée Racine, donc on n'était pas très loin.
Ah oui, c'est juste à côté. Donc voilà. C'est d'ailleurs assez marrant. En ce moment, je regarde un peu les trajectoires de tous ceux qui étaient au lycée avec moi. Je reconnecte avec certains et c'est sympa de voir les directions que chacun a pris.
Donc tu fais ton lycée, après tu décides de faire des études de éco. J'ai vu que tu avais atterri à Tolbiac. Pourquoi tu fais ça et pas une prépa ou des études de sciences ou...
Alors j'ai longtemps hésité entre la prépa et la fac. J'ai aussi eu une éducation où mon père me rabattait l'égalité des chances et que vraiment c'était super important d'aller à l'université plutôt que d'aller dans une école privée. Et c'est quelque chose à laquelle c'est une chose à laquelle je croyais vraiment. Du coup, je me suis dit je vais essayer la Sorbonne. J'ai fait deux bonnes années à la Sorbonne. J'ai ensuite rejoint le magistère de de gestion à Dauphine, qui était complètement différent et un univers aussi différent. Les locaux de Dauphine sont d'ailleurs un peu plus sympas que ceux de Tolbiac. Et voilà.
D'accord. Et donc, tu commences à faire des stages. Donc,
ouais.
Je vois que j'ai vu que tu avais commencé par le private equity et un peu de venture.
Ouais. Ouais.
Donc on touche encore à l'entrepreneuriat. Et
Ouais.
là, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui te fait vibrer à ce moment-là en termes tu vois, de parcours? Qu'est-ce qui te fait aller vers la vente, en fait?
Alors, à la base, je voulais vraiment développer mon anglais. Du coup, je vais sur un site qui s'appelle, je vais faire la petite promo, My Internship Abroad, qui est un site qui résume toutes les listes de stages disponibles à l'étranger. Je vois pas mal d'offres, Rational FX, pas mal de boîtes dans la fintech, et Checkout se présente, je fais l'interview. À l'époque, il y avait 10 personnes dans le bureau, donc c'était vraiment tout petit, il y avait aucun sales, la boîte était pré-revenue. Et je me dis, l'interview, elle est quand même super cool. Les questions qu'elles m'ont posées, elles sont vraiment intéressantes. Et le projet est, selon moi, prometteur. Les paiements en ligne, ça peut que se développer par rapport à où on était il y a 8 ans.
Mais
Donc,
pourquoi
je
tu
me
as
dis,
cette
pourquoi
affinité? Tu dis, enfin, je comprends que tu as envie de développer ton anglais, mais tu vois, d'un point de vue business, qu'est-ce qui te
pas?
fait
Ouais.
dire, tu discutes avec le CEO, c'est le CEO qui te donne envie, c'est le si c'est le business, pourquoi est-ce que tu te dis, OK, c'est vraiment, ça peut être un business super intéressant?
Je pense que c'est l'idée touche à tout plutôt. Il y a pas vraiment de rôles qui sont définis et moi ce que je voulais c'était apprendre le plus possible. Donc plutôt de me mettre dans une case où je vais répéter la même chose toute la journée. L'interview c'était on cherche quelqu'un de créatif, on va te laisser entreprendre le plus possible et c'est ça qui m'a vraiment attiré. Tu vois, dans les boîtes de FX, je savais très bien ce que j'allais devoir faire. C'était toute la journée la même chose et c'était appliquer un modèle et c'est un peu ce que je fuyais en France.
Voilà, tes potes de promo, eux, est-ce que c'était la belle époque des marchés financiers où tout le monde voulait être soit sales, soit trader, soit quant? C'est cette époque-là
Ouais.
où la finance est encore reine ou...
Ouais, c'était vraiment cette époque-là. Je pense que maintenant ça a bien changé et que les sales en fintech font potentiellement plus d'argent que les sales en finance. Donc j'en ai pas mal qui viennent toquer à la porte maintenant.
Donc c'était un bon move. Et donc t'échanges avec la team et là tu te dis OK, ça me correspond.
Ouais.
Tu step up là-dedans, tu arrives à Londres, c'est quoi le
C'est
move?
ça, j'arrive à Londres, je me souviens, c'était en janvier, je lis mon contrat, et là je réalise que mon niveau d'anglais n'est pas vraiment adéquat, et je me dis, oh là là, je vais me faire virer dans les 3 prochains jours. Il y a vraiment un gros delta entre l'anglais que je pensais avoir et est-ce qu'il est en réalité. Donc je panique un peu, mais au final j'ai un manager qui m'accompagne et qui est vraiment super supportif, ce qui a vraiment aidé. Et je commence pas en rôle de sales. Je commence en rôle de business development pour alternative payment method. Donc, juste en step back, check out, on offre des solutions de paiement en ligne qui sont pas que la carte, mais également des solutions de paiement alternatives. Et donc, j'étais en charge d'aller signer ces moyens de paiement alternatifs. Donc, Zofort, par exemple, en Allemagne, iDeal aux Pays-Bas. Je faisais le contrat et je draftais tout le process de à la fois intégration, réconciliation, négociation des contrats, onboarding de merchant, ce qui m'a vraiment permis de très bien comprendre le produit avant de me pencher sur les sales. Il y avait vraiment pas de dimension sales à l'époque, donc c'est juste un jour où je me suis dit bon, le produit il est super, maintenant ce serait quand même bien qu'il y ait 2 ou 3 marchands qui l'essayent. Et j'ai contacté des gens dans mon entourage et je leur ai dit quelle était la solution de paiement aujourd'hui, est-ce que tu voudrais essayer Checkout? Et c'est comme ça que les sales ont commencé.
D'accord, donc c'était pas ton périmètre et
Non, du tout.
tu t'es donné la permission de tester autre chose. Et quand toi t'arrives, vous êtes combien de personnes? Ça ressemble à quoi? On est en quelle année et ça ressemble à quoi le checkout?
Donc, c'était il y a 7 ans, donc c'était en 2015. On faisait un revenu minimal à l'époque. On était une quinzaine à Londres. Et le produit ressemble pas à grand-chose. Beaucoup de downtime, de problèmes techniques et beaucoup de nuits blanches. Et le rôle, il est vraiment du coup transverse. Aujourd'hui, notre team, elle est structurée. On a BDR, Sales, Sales Implementation, Sales Engineering, Customer Success. À l'époque, je faisais tout ça tout seul. Donc c'est vraiment différent de ce que c'est aujourd'hui, mais c'était super intéressant et c'est ce qui m'a vraiment attiré dans le rôle de sales à l'époque.
Et il y a déjà un bureau à Paris ou en
Non.
Suisse? Non, donc la
Non,
boîte
pas
est
du tout.
focus 100%
Ouais.
UK, quoi.
UK et Middle East aussi, on avait un bureau à Dubaï, qu'on a toujours. Donc la majorité des sales venaient de Dubaï et d'Asie en fait. Et on n'avait quasiment pas de marchands en Europe à l'époque. Et en fait, moi très tôt, j'essaye de me rapprocher du CEO pour vraiment comprendre quelle est la vision, qu'est-ce que je peux apprendre, comment est-ce que je peux faire la différence, vraiment avec une mentalité, pas une mentalité de killer parce que ça serait trop poussé, mais je voulais vraiment tout de suite être un des top performers de la boîte. Et du coup, je me suis mis dans le mindset que si je devais travailler 80 heures par semaine pendant les 5 prochaines années pour le faire, et vivre, manger, et boire, check out, je le ferais. Et du coup, je me suis mis dans ce mindset et j'ai vraiment eu tout le coaching. Et c'est là où j'ai beaucoup de chance, super tôt de notre founder qui m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre la dynamique et comment est-ce qu'on voulait se positionner sur le long terme. Parce que je pense vraiment que la force qu'il a et qu'on a check out, c'est qu'on s'est jamais concentré sur les 6 à 12 prochains mois, mais qu'on a toujours travaillé avec une vision super long terme. Tout en alignant nos valeurs et en étant très clair sur ce qu'on cherchait. Voilà.
Ouais, ça c'est quelque chose qui est récurrent dans toutes les podcasts que je fais là avec la mafia checkout là. C'est un effectivement la vision du founder qui est assez forte. Au-delà d'être inspirante, c'est vraiment c'est j'ai l'impression qu'il y a la vision et l'exécution. Tu vois, les deux sont intimement liés. Donc c'est assez frappant comment ça design en fait tout ce groupe sur et comment ça aligne tout ce groupe en fait. Et donc là, donc toi tu commences, vous êtes une quinzaine, tu commences avec un rôle transverse pour un peu step up sur tout le business du paiement et des solutions que vous faites à l'époque. Comment donc et après tu te dis ok, je vais commencer à le vendre. Donc on te donne la possibilité d'avoir cet espace d'expression. Tu commences à appeler des copains qui sont à droite à gauche pour
Exactement.
savoir comment ils sont staffés, comment ils sont stackés en termes de solutions. Et là, tu commences à vendre et comment ton rôle évolue sur en disant, OK, maintenant, je vais faire des sales. Ça marche comment?
La transition, elle se fait de manière assez naturelle. C'est notre CEO qui vient me voir et qui me propose de bouger sur un rôle de sales. À ce moment-là, j'hésite en fait à retourner et faire plus d'études. Et c'est lui qui me convainc de rester. Donc il y a 6 ans de ça. Une fois qu'on commence à onboarder nos premiers clients, je réalise que je vais pas pouvoir tout faire tout seul, même avec toute la meilleure volonté du monde. Du coup, je commence à embaucher nos 2 premiers sales, au UK notamment. Mathieu, je crois que tu lui as parlé, c'était l'un
Ouais,
d'entre eux.
ouais.
Donc, Mathieu m'a vraiment beaucoup aidé à créer la team, au UK d'abord. Et en fait, on essayait de créer une sorte de recette magique des sales avant de pouvoir la scale dans d'autres pays. Et notre premier focus, c'était vraiment sur la différenciation. Je recevais tellement
Donc
d'emails de sales.
tu participes également à comment mettre en avant le fait que checkout est complètement différent du marché. Donc t'as cette feuille blanche un peu de OK, à toi de jouer, trouve le playbook quoi.
Ah,
Trouve l'équipe.
c'est plus qu'une feuille blanche, il n'y a rien. Il n'y a pas de commission plan, il n'y a pas d'onboarding process, il n'y a pas de training guide, il n'y a pas d'objection handling, etc.
Mais attends,
C'est.
à l'époque t'as quel âge là? Quand tu dis OK, toi le CEO Guillaume te dit
J'avais 23 ans.
OK, donc il te donne et lui il doit être pas si vieux que ça à cet âge-là, quoi, à cette époque-là.
Il avait 33 ans.
D'accord. Donc il a 10 ans de plus que toi, ok, 10 ans, et il te dit, ok, bah, à toi de jouer. Et toi, à 23 ans, donc t'as raison, il faut appeler des copains pour commencer à faire les trucs. Donc j'imagine que t'appelles un très bon pote de l'époque, Mathieu. Il nous a raconté aussi l'histoire, c'est sympa, je trouve. Comment t'as réussi à le convaincre? Parce que ça aussi, c'est un talent de beaucoup je trouve, de ces C-level, c'est de rapidement happer des gens très très forts, soit d'une précédente venture, soit d'un écosystème, soit de l'enfance. Toi, t'es allé très loin. Tu t'es dit, ok, je vais prendre quelqu'un qui sur lequel j'ai confiance. Comment t'as réfléchi en disant c'est Mathieu qu'il me faut?
C'est une très bonne question. Mathieu, ça a toujours été une question de feeling. Le fait que il ait une emotional intelligence qui est une intelligence émotionnelle pardon qui est super élevée, je savais que ça allait fonctionner avec les marchands parce qu'il avait cette capacité d'adaptation à peu près n'importe qui. Il a eu une éducation anglaise, même en France, et je savais qu'il était prêt à bosser, qu'il pouvait être super fidèle et que juste ensemble, ça allait fonctionner. Et je me suis dit, pour commencer, c'est super important d'avoir quelqu'un sur qui, je peux me fier à 2000%, mais aussi quelqu'un qui a des valeurs super alignées avec moi si on continue à construire la team ensemble. Donc voilà, ça a été un choix assez évident. Qui a plutôt bien
et, le deuxième, et la deuxième personne, quand tu dis que tu as embauché deux personnes, donc il y avait Mathieu très vite, et puis ouais. Après, tu avais un deuxième Français dans le coup ou tu as embauché localement?
J'ai embauché localement. C'était un autre sales qui a fait 5 ans avec nous, avec qui ça s'est très bien aussi passé, mais qui était plus un individual contributeur qu'un manager. Et ça, c'est ce que j'ai appris au fil des années, c'est très vite différencier quelqu'un qui allait pouvoir évoluer en tant que manager et quelqu'un qui allait tout le temps rester individual contributeur. Parce qu'aujourd'hui, mes meilleurs sales dans la team, c'est des gens qui ne pourraient pas être managers, mais qui sont des excellents sales.
D'accord. Donc, vous démarrez à 3, vous fine-tunez le discours commercial, vous mettez tout sur la différenciation. Ouais. Et donc là, si on parle un peu de chiffres, là, même si c'est il y a 6 ans, ça donne quoi là? Vous êtes, il y a combien de clients en e-commerce? Grosse masse, hein, pas besoin d'entrer dans les détails.
Ouais, ouais.
Comment vous arrivez au bout de quoi d'un an, ça ressemble à quoi?
Alors, au bout d'un an, on doit avoir entre 30 et 50 clients, mais l'approche n'était pas du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment, on prenait un peu tout ce qu'on pouvait prendre. Et quand je dis une approche différentielle, c'était pas que dans le produit expliquer ce qui nous rend différent. C'est aussi la façon dont on va engager avec les clients. Comment est-ce qu'on se différencie? On avait une sorte de mini process qui était, par exemple, de checker le similar web de n'importe quel des sites qu'on va contacter, regarder où sont leurs clients et en fonction de où est leur trafic, leur proposer les moyens de paiement qui sont les plus relevant si jamais ils ne les offrent pas aujourd'hui. Donc, on a essayé de se servir de tous les tools que l'Internet proposait, qui sont d'ailleurs incroyables. Mon Google Chrome explose en termes de petites extensions, mais ça nous permettait d'être vraiment super targetés et différents dans notre approche. Et c'est quelque chose qui a super bien résonné. On se servait aussi d'approches, d'entreprises tierces qui créaient des inbound pour nous, mais qui les envoyaient aussi à tous nos concurrents. Donc, c'était vraiment le premier qui décrochait le téléphone qui avait le lead. Et je me souviens, avec Mathieu et les équipes, on avait une petite salle et le téléphone sonnait. 4 secondes plus tard, on avait un sales qui était dessus et c'est comme ça qu'on commençait à signer nos premiers clients. Donc, pour répondre à ta question sur les nombres, entre 30 et 50 marchands, je dirais, qui faisaient un chiffre d'affaires, eux, en termes de processing, entre 100 et 500 000 par mois. Tout a commencé à s'accélérer quand on s'est concentré sur une verticale et qu'on a signé ses premières référence dans la verticale.
C'était quoi la verticale sur laquelle vous êtes concentré?
C'était la fintech.
D'accord. C'était la fintech.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait une value proposition qui faisait vraiment beaucoup de sens par rapport à ces marchands de fintech. C'était des marchands qui étaient super agiles d'un point de vue technique versus les retailers traditionnels qui mettent 3 ans à prendre une décision, à t'intégrer et qui posent des questions du 14e siècle. Les fintech, ils avaient vraiment cet angle d'optimisation en tête, que ça soit sur le prix, sur donc le pourcentage d'acceptation des paiements, mais aussi sur la technologie. Et donc, quand on a compris qu'on parlait le même langage, on s'est dit, il faut qu'on se concentre à fond dessus. J'ai signé une fintech qui s'appelle Transfergo, que tu connais, je pense, pas, alors qu'ils sont quand même plutôt gros au UK, qui a été le premier marchand qui faisait, tu vois, entre 20 et 30 millions de chiffres d'affaires par mois à checkout. Et je me suis servi de cette référence pour ensuite aller chercher tous les concurrents. Je me souviens, j'avais envoyé un mail à Tavet, le fondateur de TransferWise, parce que en venant dans le métro le matin, j'avais vu un article du CEO de Transfergo qui disait que Transfergo était maintenant plus compétitif que TransferWise, notamment grâce au payment service provider et aux frais qu'ils offrent. Donc, j'ai pris une photo de cet article, je l'ai envoyé à Tavet et je lui ai dit « Guess who is the payment service provider ?» avec un point d'interrogation. Il m'a appelé 5 minutes plus tard. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut en parler? Et un an plus tard, TransferWise était live et on s'en est servi pour aller chercher les autres fintechs type Revolut, Lydia, etc., etc. Donc, c'était vraiment créer cette, cette
Donc, conscience. Tu as été un gros personnel contributeur sur ce coup.
Au début, ouais. Au début, j'étais vraiment hands-on. Et c'est quelque chose qui était super important parce que, tu vois, on parlait de comment tu construis les équipes. Je pense, en tant que sales leader, tu te dois de montrer que tu fais partie des meilleurs sales. Sinon, tu n'as pas vraiment la légitimité pour aller dans les 101 créer de la valeur pour eux.
D'accord. Donc là, vous commencez à stacker pas mal de clients. Vous trouvez un sweet spot. Là, en termes de funding, on n'a toujours pas levé de l'argent de mémoire, je crois.
Non, non.
Ce qui est quand même toujours, assez particulier.
Ouais, c'est ouais, particulier.
Vous êtes assez
lean. On est hyper lean et on est toujours à l'étape où, à chaque fois que j'appelle un prospect, il me dit « check out, jamais entendu parler. Vous êtes sûr que vous avez une licence ?» Non, je peux pas vous faire confiance. Vous n'avez pas levé de fonds, c'est trop dangereux, c'est mes paiements, etc. Vraiment compliqué. Donc il y avait, on partait vraiment très loin chaque fois dans le sales process et le fait de pas avoir de funding, c'était hyper bénéfique d'un point de vue agilité, roadmap et prise de décision parce que on pouvait clairement faire ce qu'on voulait et même en termes de pricing stratégie, si je voulais l'offrir, je l'offrais le pricing. Mais en termes de crédibilité. C'était beaucoup plus compliqué. Tu vois, tu avais les Stripe qui commençaient déjà à lever 150, 200 millions. Et nous, on était 15 à Londres à essayer de faire la différence et d'aller compiter sur les mêmes marchands. Donc, pas forcément facile, mais bénéfique parce que ça t'apprend à être hyper scrappy et surtout à bien choisir qui tu embauches plutôt que de faire une stratégie de blitzscaling où tu essayes 3000 projets à droite, à gauche et t'espères qu'il y en a un qui va fonctionner. Donc, selon moi, bénéfique, même si c'était oui, un peu pénible à l'époque.
Ouais, c'est sûr. Et puis, je pense que ça correspond. Enfin, tout ça est très est consistant, quoi. Tu vois, si tu veux, il y a pas de mystère finalement entre l'ADN de départ et vous en arrivez à un moment quand vous avez accéléré, que vous avez levé de l'argent. En fait, ça a été aussi une manière très violente dans le bon sens du terme de créer beaucoup de valeur en peu de temps. Et toi, dans ta vie perso, à ce moment-là, t'en es où? Parce que finalement, tu vis à Londres, t'as 24, 25 ans.
Ouais.
Ça fait, donc là, t'es dans le dur depuis 2-3 ans, t'es à fond dans ton job. Dans ta vie perso, t'en es où? Et tu penses, même si tu manges 90 heures de check-out par semaine, t'as le temps de réfléchir à autre chose ou pas du tout?
Pas trop honnêtement. J'essaye de garder mes petites habitudes où je joue au foot avec des copains, mais sinon à part ça c'est vraiment quasiment que du boulot. J'ai du mal à déconnecter pendant les vacances parce que j'ai vraiment ce sentiment de manque dès que je quitte le boulot, mais voilà, la vie perso était quasiment inexistante malheureusement à l'époque, mais honnêtement c'était tellement un plaisir et un kiff que pour moi, enfin, je le voyais vraiment pas comme du travail, tu vois.
Oui, c'est
ça. Bossais avec mes potes, avec une équipe qui est géniale. J'avais carte blanche et juste, je m'éclatais, quoi. À chaque fois que j'avais ce même sentiment d'adrénaline, à chaque fois que j'avais une réponse positive d'un prospect, et c'était tellement jouissif que enfin, c'était pas du travail.
Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et donc là, on en est, une fois que vous avez focus sur la verticale fintech, en plus, j'imagine, sur le marché UK, vous êtes plutôt en avance sur ce sujet-là, donc il y a pas mal de maturité, il y a pas mal de business à aller faire. On est en quelle année et c'est quoi la prochaine étape en termes de, croissance?
On est en 2018. Prochaine étape, c'est bien évidemment la levée pour qu'il y ait plus de visibilité.
Tu participes à la réflexion, enfin, avec le CEO, c'est quoi ton niveau de est-ce que vous êtes proche, est-ce qu'il y a une espèce de pas de comex mais de comité de direction, de toi tu commences à avoir une place significative dans cette garde rapprochée, comment quel est ton rôle en fait là-dedans, comment tu contribues à l'échelle de la boîte?
Alors, à l'époque, on n'a pas vraiment de leadership team parce que l'organisation est un peu, enfin, est même complètement décentralisée. C'est pas ce que c'est aujourd'hui où on a un e-team meeting et on se rassemble pour prendre des décisions. C'était vraiment Guillaume, notre CEO, qui est, c'est un one-man show. Donc, je suis plus là en tant qu'advisor et moi, ça a été mon mentor depuis le début. Donc, j'étais plus là pour donner des conseils et enfin, donner des conseils, donner du feedback plus que des conseils d'ailleurs, lorsqu'il parlait à des fonds, lorsqu'il gérait le process. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui l'a fait tout seul. Et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est que il était approché dans tous les sens. On s'est fait accompagner, je crois, pour la première levée par FTP, partner qui nous a donc fait le deck, etc. Donc, on a provide pas mal d'inputs sur le deck. Mais ça s'est passé tellement vite qu'on s'est dit, on va lever. 2 semaines plus tard, on avait 30 term sheets.
Non. Ah
Donc, ah
ouais.
si, si. Non, ça s'est vraiment fait super vite. Et on s'est concentré sur prendre des investisseurs qui pouvaient créer le plus de valeur pour nous, alors qu'on aurait même pu aller chercher une valo qui était encore plus élevée que ça.
Et donc la taille du tour, donc
Alors,
enfin, si on parle un peu de chiffres, même au niveau de la boîte, vous êtes combien de personnes au moment où vous levez? Et puis moi, j'aimerais comprendre comment après le toi, dans ton rôle très opérationnel, parce que
ouais.
finalement, la top line devient un truc, devient un sujet très critique, puisque là, vous avez finalement, là, vous levez de l'argent, donc vous rentrez dans un autre game de scale qui est en fait mandatory. Comment toi, ton rôle évolue et comment, en termes de ressources et de moyens, tu passes à une autre échelle?
Alors, au final, on a tellement gardé, j'ai tellement été train à cette mentalité d'être scrappy que la levée a pas changé grand-chose. La seule chose que ça a changé, c'était la perception qu'avaient les gens et notre capacité à attirer des talents. Mais en soi, c'est pas parce qu'on a levé que j'allais commencer à fly en business. J'ai toujours fly en éco et très bien en éco. J'allais pas, je sais pas, faire des dîners à 10 000 dollars avec mes équipes. Le but, c'était vraiment d'avoir le déploiement le plus efficace du capital, de se concentrer sur garder les mêmes valeurs et d'essayer d'itérer le plus possible sur la recette qui fonctionne à la fois pour les sales, le customer success et toutes les équipes au sein de commercial pour qu'on puisse délivrer la meilleure valeur possible à nos clients. C'était vraiment toujours l'objectif. Donc, on s'est jamais vraiment trop concentré sur la valorisation, sur le funding, etc. C'était vraiment annexe, et un point positif. Aujourd'hui, ça change pas grand-chose pour nous.
D'accord, donc ça reste finalement une ressource qui est plus ou moins visible et tu gardes le même mindset. Tu as parlé pas mal de différents métiers, que ce soit le customer success, un peu de marketing tout à l'heure en amont, côté
Ouais.
produit.
Ouais.
Toi, tu continues à, enfin, post-levée, tu continues à toucher à beaucoup de choses ou tu restes focus client, client, client?
Non, je touche à beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est là où je commence à galérer un peu avec l'allocation de mon temps. Tu vois, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour le business? Est-ce que c'est que je partage le vrai ressenti des clients avec produit? Est-ce que c'est que je me concentre sur construire la roadmap future parce que je vois comment le marché évolue? Ou c'est que, au final, je scale le plus rapidement possible la sales team parce que c'est ce qui créera plus de revenus à terme? C'est vraiment les challenges du moment qui sont d'ailleurs toujours pas résolus, malheureusement. C'est toujours la problématique que j'ai. Donc ouais, pour te répondre, je te dirais que c'est ça les challenges de l'époque.
Et donc, comment ça s'arbitre? Qu'est-ce que vous décidez de faire avec Guillaume, avec tes différents parce que j'imagine qu'il y a d'autres patrons à ce moment-là. Ça ressemble quoi les six levels ou les donc t'as Guillaume qui est le one man show comme tu disais. Et puis
Ouais.
autour de lui, c'est quoi la garde rapprochée à ce moment-là, post-levée 2018-2019?
C'est CFO qui est parti maintenant, CTO et un autre représentant côté sales plus Middle East et moi plus pour l'Europe.
D'accord. Donc ça, c'est la ça, c'est les gens avec qui finalement plus Guillaume, vous essayez finalement d'être le plus aligné possible pour partager l'information et get the shit done, quoi.
Exactement, exactement. Et Guillaume, il a toujours fonctionné un peu comme ça, avec sa garde rapprochée auprès de qui il peut prendre du feedback assez honnête et transparent. Il va toujours écouter tous les gens en qui il a confiance et il a tendance à poser vraiment beaucoup de questions pour agréger le plus de data possible pour ensuite prendre une décision. C'est là où il est vraiment très bon et moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est la capacité à prendre des décisions. Enfin, j'étais avec lui dans des situations où je voyais le gap entre ce que c'est un successful entrepreneur et moi, ce que j'ai encore à apprendre. C'est vraiment le decision-making process où en 2 secondes, tu prends une décision, puis tu passes à autre chose. Alors que moi, je me dis, en prenant une décision comme ça à l'époque, j'aurais passé la journée à me dire, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? C'était assez impressionnant.
Et donc là, donc là, on a une bonne photo de 2018-2019. Comment ça évolue en termes de, donc toi, forcément, tu as des choix à faire en termes de périmètre, de géographie, de niveau de responsabilité. Il y a Mathieu qui te suit au fil de l'eau parce que forcément, il faut quelqu'un de confiance et qui lui, en plus, il évolue de ce que je comprends super bien. Donc tu as quelqu'un qui a un vrai rôle. T'as un vrai bras droit ou un mec en tout cas de confiance dans lequel tu dis OK, on va continuer à bâtir. Il y a les US. Comment ça, c'est quoi
Alors,
ton move d'après?
à l'époque, on n'est pas encore à se concentrer sur les US, tout simplement parce que c'est trop gros, trop loin et trop différent d'un point de vue produit et mindset. Du coup, on se concentre sur les marchés qui sont plus proches, type France, type Italie, type Espagne, etc. Et on essaye de scale ces pays avec la même méthode qu'on a employée au UK, donc en faisant des hires en qui on peut avoir confiance et qui ont à peu près le même mindset que nous. Donc voilà, c'est juste répliquer une méthode qui a fonctionné dans d'autres pays et c'est vraiment le challenge des 2, 3 années post-levée.
D'accord, donc ça t'incite beaucoup sur la partie people et sur la partie ADN. C'était un sujet sur lequel on avait pas mal discuté avec Mathieu, sur lequel il avait été assez précis et je trouvais ça assez le comment il avait dit ça le culture fit, je crois. C'est ça qu'il disait lui, que c'était un élément genre primordial avant toute chose, ce sentiment de confiance. Donc on arrive en 2020, si on fait un, si on avance un peu. Donc là, toi, ça fait 4 ans que t'es dans le dur. Là, on
Cinq ans
re,
même,
il y a 4-5 ans. Là, on resume sur un truc perso. Ok, t'as repris un peu d'oxygène. T'es toujours, t'as juste toujours ton foot à droite avec tes potes. Et est-ce que t'as reconnecté avec un semblant de vie normale où tu es toujours dans le à 140%.
Je suis toujours à 140%. Je me permets quand même de faire des voyages à droite à gauche parce que j'ai une copine et qu'on aime découvrir de nouveaux pays. J'essaye aussi de rester le plus proche possible de ma famille parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Mais à côté de ça, je déconnecte quand même un peu de mon cercle parisien, même si c'est pas voulu. C'est juste que ça se fait un peu naturellement, malheureusement. Donc, je suis toujours en très bon contact avec eux aujourd'hui. Mais il y a quand même cette distance qui se crée malgré moi.
D'accord, parce que tu fais du business au UK, quoi, tout simplement.
Parce que je fais du business au UK et que en fait le temps passe tellement vite qu'il y a 6 mois qui sont passés et j'ai l'impression que j'avais parlé à mon pote à Paris la semaine dernière, alors que c'est pas le cas.
Ok, et là, donc on arrive en 2020. C'est quoi les enjeux à ce moment-là? Et je pense qu'il y a un, de mémoire, il y a des questions vraiment de géographie qui se dessinent, même si, les US étaient trop gros à l'époque. Ça semble être un peu mandatory pour devenir un opérateur global.
Tout à fait.
Comment toi tu commences à te positionner et 2020-2022, ça ressemble à quoi la photo de la garde rapprochée de Guillaume? Et comment toi tu décides de prendre un corps, une responsabilité plus importante?
Alors, c'est pas moi vraiment qui le décide parce que pour le coup, j'ai jamais vraiment rien demandé à Guillaume. Il a toujours été assez proactif envers moi et c'est vraiment tout le temps ce qui m'a donné le boost aussi, le fait que la boîte soit hyper méritocratique. Donc, je savais que si je bossais comme un malade, j'allais être récompensé sans même avoir le demandé, ce qui est toujours hyper appréciable. Et tu sais, à l'époque, j'ai 26 ans et je sens que la confiance qui me porte est énorme et c'est vraiment un booster pour moi à l'époque. Donc oui, comme tu le dis, US, super important pour nous. On commence à se développer, on mange pas mal de portes parce qu'on comprend qu'au final, bah, c'est comme si on recréait une nouvelle boîte aux US et que t'as beau valoir donc maintenant 15 milliards à l'époque, bah, t'es no one aux US. Du coup, on se casse un peu les dents, mais on réussit à trouver, encore une fois, deux, trois clients référents qui nous permettent de créer cette confiance et ensuite de réappliquer la méthode qu'on avait donc utilisée en Angleterre, en France, etc.
Et qu'est-ce
Et
qui les
c'est
trouve ces clients? Qu'est-ce qui s'y colle?
un effort collectif. On avait un ou deux reps aux US qui ouvraient des portes et nous, on essayait d'involver Guillaume le plus tôt possible dans le sales process parce que quand tu mets Guillaume dans un meeting, tu es quasiment sûr que tu sors du meeting et que tu as signé le deal. Donc, tu parlais de cette garde rapprochée. C'est celle qui exécute dans tous les meetings. Tu as moi du côté sales, Guillaume d'un point de vue exec et le support soit du CFO, du CTO qui faisait les tours avec nous pour aller signer les marchands.
D'accord, donc ça, c'est ce qui rassurait tous les clients
Ouais.
pour dire, bon, voilà, on a des gens sérieux en face de nous et ça va bien se passer, quoi.
Et committed. Et Guillaume, c'était à chaque meeting, je te donne mon WhatsApp, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis, il répond à tout le monde dans les 30 secondes. Je sais pas si c'était hyper scalable à l'époque, mais c'est ce qui marchait parce qu'on donnait tellement d'amour et d'accompagnement à nos clients qu'ils se disaient au final, il va pas me manquer grand-chose si je vais avec Checkout.
Donc vous signez ces quelques logos qui donnent
Ouais.
confiance.
Ouais.
Et toi, finalement, si les US deviennent, excuse-moi, je
Pas de
couperai,
problème.
devient très stratégique, ça donne quoi dans ta vie perso? Tu dois aller aux US forcément ou comment ça s'organise?
Je dois aller aux US de plus en plus, oui, mais l'Europe grandit tellement vite que je peux pas me permettre de complètement shifter mes ressources comme je suis en train de le faire en ce moment, parce que les autres régions n'étaient pas encore 100% autonomes comme elles l'avaient été dans le passé au UK. Le problème qu'on a en grossissant, c'est qu'on réalise aussi que chaque marché a des besoins différents. Et ce qui demande du coup beaucoup de prioritization avec produit. Tu vois, si c'est aux US, il va falloir ACH par exemple, qui est une méthode de virement bancaire. Quand tu vas en France, il va te falloir carte bancaire. Quand tu vas en Espagne, il va te falloir autre chose. Du coup, c'est cet exercice où on galère un peu de déployer nos sales efforts en coordination avec produit, parce que les deux équipes bossaient vraiment de manière séparée jusque-là. Et ça a été un autre challenge. Donc aux US, ça a retardé un peu le scaling et là on est en 2022 et je déménage à New York justement pour vraiment y aller à fond cette fois.
C'est excitant ça. Et en parallèle, vous rachetez des boîtes, process out. Comment
Ouais.
tu vois ce premier move de on capte des gens très talentueux, de la techno, comment ça se passe?
Alors moi, je connaissais déjà Cyril avant l'acquisition de Process Out, en fait. Vient des copains en commun à Paris et je me souviens lorsqu'il crée Process Out, il m'appelle, il me dit Antoine, je sais que tu bosses dans le paiement, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un payment token, etc. Enfin vraiment la base du paiement. Et on est resté en contact depuis et jusqu'au moment de l'acquisition, je me disais mais ces mecs ils sont tellement bons, ils créent quelque chose qui est vraiment disruptif. Du coup, je vais voir notre CEO et je lui dis, je pense que ce serait vraiment bien qu'on les rachète. Et c'est ce qui s'est passé. Et à la fois, on a acheté une super technologie, mais aussi une super équipe. Ils sont tous aussi impressionnants les uns que les autres. Et c'est un plaisir de travailler avec eux aujourd'hui.
Ouais, c'est une super team. Je les connais aussi très bien. Et effectivement, tu as raison, ils sont bons sur tous les volets, quoi. Et c'est ça qui était assez déjà à l'époque assez remarquable. Et si tu connectes ça avec la puissance commerciale d'un checkout, bah forcément, c'était le bon choix à faire. Donc bravo les
Merci.
gars. Et ça va continuer à se multiplier, même tu vois en termes de biz dev. Toi, pour accélérer les US, racheter des boîtes qui ont des technos moins importantes, mais qui ont une super force commerciale, ça, c'est des choses que tu as en tête ou vous allez tout faire de manière organique?
Bon, je pense que la réponse est qu'on va essayer de faire la manière la plus organique possible parce qu'à chaque fois que tu achètes une boîte, tu te dois quand même de merge les deux API, ce qui est quelque chose qui prend à la fois beaucoup de temps mais qui est aussi hyper complexe à faire parce que notre vraie value proposition, c'est de tout offrir via une même implémentation. Donc, si tu passes ton temps à racheter des boîtes, soit tu implémentes ta technologie directement, soit tu fais une sorte d'API layering, qui est vraiment ce qu'on essaye d'éviter, parce que du coup, ça crée de la latence et aussi moins de stabilité potentielle sur la plateforme. Donc, racheter des boîtes pour scale aux US, non, je pense pas. Par contre, aller chercher les meilleurs talents dans les meilleures boîtes, avec grand plaisir.
Ouais, donc ça continue, ça va être un vrai défi, parce que les US, c'est encore une autre échelle en termes de et d'expectation d'un point de vue salaire, même si vous avez le bon niveau de funding, je pense que ça va être c'est pas forcément problématique, mais une compétition quand même qui est nucléaire à ce niveau-là. Donc toi tu vas bouger là-bas, ça c'est le prochain gros défi de ce que je comprends. Tu vas tout seul, tu vas avec Mathieu, comment vous allez vous splitter le truc?
J'y vais avec Mathieu, j'y vais un tout petit peu plus tôt que lui. Je vais avoir deux sales leaders aux US, dont un est Mathieu, un autre qui est américain. Je vais me concentrer sur scale les BDR le plus possible, donc ceux qui sont pré-sales, pour vraiment essayer d'augmenter notre nombre d'opportunités dans le pipe, pour ensuite mettre les meilleurs sales qui exécutent. Tu parlais de salaire, de compensation, etc. Les US, pour ça, c'est un cauchemar. Et je pense que l'avantage de s'être développé avant en Europe, c'est que on sait très bien le type de sales dont on a besoin. Et je suis prêt à aller chercher des mecs qui ont beaucoup moins d'expérience, des mecs ou des femmes d'ailleurs, qui ont beaucoup moins d'expérience, mais qui ont cette capacité à apprendre très rapidement, à s'adapter, et qui ont vraiment une mentalité de chasseur, plus qu'aller payer un mec, tu vois, 300 000 $ juste parce qu'il a déjà un réseau existant. Parce qu'au final, maintenant, les sales aux US, des personnes qui ont 45-50 ans, ils sont très bons dans une verticale, ils ont un bon réseau, mais ils n'ont pas forcément la mentalité que je cherche pour checkout. Et du coup, avoir une approche où on mixe le plus possible les profils, je pense que c'est ce qui va nous permettre de réussir là-bas. Notre capacité à s'adapter et à avoir des profils le plus différents possible.
D'accord, donc là, on remet les couverts, on recrée une boîte quasiment avec les mêmes ingrédients. Donc là, tu vas te remettre, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être dans une seringue d'exécution un peu énervée.
Ouais.
Avec, j'imagine, je ne sais pas quelle est la taille de checkout aujourd'hui, mais vous allez sans doute doubler au moins la taille de l'équipe dans les 5 prochaines années.
Tout ça,
t'as envie de vivre le truc jusqu'où, toi? C'est quoi ton drive pour aller, enfin, qu'est-ce qui va te faire rester encore 10 ans ou 5 ans, en tout cas, chez Checkout? C'est d'être arrivé, first time, parmi les premiers employés jusqu'à l'IPO. C'est quoi, qu'est-ce qui te nourrit d'un point de vue, très perso, quoi?
Je pense que le challenge de l'IPO, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que, ayant vu la boîte naître quasiment, c'est un peu un milestone qui est assez clé. Maintenant, tant que je me sentirais challenge, motivé et content d'aller au boulot le matin, je vois pas de raison de partir. Tu vois, j'irai jamais travailler pour la concurrence. Mon cœur est avec Checkout et il le sera jusqu'au moment où potentiellement je me sens prêt à être entrepreneur aussi et à aller créer ma boîte.
D'accord, donc ça fait partie, ça c'est un de tes drives potentiels de dire demain tu auras sans doute un très bon conseil qui sera à Guillaume pour dire bon bah voilà, écoute, ravi de t'aider mais ça fait partie de toi, de ton parcours pour reboucler la boucle et pour finalement un peu être entrepreneur à ton tour, puisque tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Ça, c'est un truc qui te semble complètement naturel, quoi.
Ouais, c'est un des deux axes. Le premier axe, c'est donc d'aller créer ma boîte et j'espère avoir Guillaume comme soutien, mais je pense qu'il sera pas très content le jour où je lui dis que je pars. Le deuxième, c'est
Post-IPO,
c'est pas grave, mais bon, on est tellement proche aujourd'hui que même moi, ça me ferait bizarre, tu vois. Je vois vraiment, pour moi, c'est vraiment la famille et ça me ferait vraiment bizarre de partir et c'est quelque chose que je considère pas du tout pour l'instant. Et j'ai passé sur des opportunités qui aujourd'hui pourraient sembler folle. Mais une des valeurs de Checkout aussi, c'est vraiment la fidélité. Et c'est ça qui nous a permis d'évoluer tous ensemble et de se faire confiance au quotidien. Donc, je me vois pas vraiment... Je le verrais un peu comme trahir la confiance, même si c'est pas vraiment le cas. Et c'est quelque chose que je suis vraiment pas prêt à faire pour l'instant. Donc, je suis sûr qu'il y a un jour où on se dira, c'est bien ce qu'on a fait et tu peux déconnecter maintenant et faire autre chose, mais on n'en est vraiment pas là aujourd'hui.
Donc, tu disais la première chose, peut-être à terme, c'est entreprendre. Et la deuxième ?
Et la deuxième, ça va vraiment dépendre du succès de l'API au checkout, mais j'aimerais vraiment appliquer toutes les compétences qui m'ont été transmises dans une dimension potentiellement un peu plus sociale. Tu vois, que ça soit avoir ma fondation, mon association, ou aider d'autres entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire à terme pour avoir un métier et une vie d'ensemble qui fait un peu plus de sens que du pur sales. Tu vois, c'est super, je rencontre plein de monde, etc. Mais ça reste hyper number driven. Et j'ai du mal aujourd'hui à avoir la dimension sociale dans ce que je fais au quotidien. Et c'est quand même quelque chose qui est très important pour moi et qui fait aussi partie de mon éducation. Voilà.
J'ai vu que tu étais board member d'une boîte ou deux. Est-ce que tu give back to l'écosystème? Comment tu participes d'une manière ou d'une autre, soit à l'écosystème à Londres, soit en Europe, en France, demain à New York? C'est quoi ton rôle là-dedans par rapport aux jeunes entrepreneurs ou jeunes sales qui sont ou passent chez Checkout, qui sont passés par chez toi? Comment tu essaies de contribuer d'une manière ou d'une autre là-dedans?
Alors, il y a l'élément financier où je suis angel dans une trentaine de boîtes que j'essaie de l'accompagner, notamment certaines qui ont une dimension hyper disruptive. Tu vois, j'investis dans beaucoup de boîtes en Afrique qui sont les pionniers de la fintech et qui essayent vraiment de à la fois donner des comptes bancaires aux gens, mais aussi leur permettre de se connecter à cette globalisation de manière un peu plus digitale. Donc ça, c'est une dimension qui est sûrement un peu sociale parce que tu aides vraiment les gens. Là, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Lenco, par exemple, en Afrique. C'est un peu le conto, si tu veux, africain. Et le founder m'expliquait qu'à l'époque, lui, quand il devait payer ses bills, il se servait de son compte perso pour payer des bills enterprise, tellement il y avait rien d'un point de vue corporate banking en Afrique. Donc ça, je pense que c'est un minimum de dimension sociale parce que c'est un impact réel. Et ensuite, je pense que je peux l'avoir aujourd'hui à travers l'embauche et le type de profil que je cherche. Tu vois, les mecs qui ont fait Harvard ou Stanford, c'est vraiment pas nécessairement les plus successful. Et embaucher des gens à qui tu te donnes vraiment leur chance, quitte à ce qu'ils aient pas fait d'études ou qu'ils aient un background complètement différent, je pense que ça peut avoir une certaine dimension sociale et un impact aussi.
D'accord, donc quand tu regardes finalement les 50, 100 sales que tu as pu embaucher, je sais pas combien, peut-être plus.
Plus que ça, ouais.
Plus que ça, 200, 300, allez. Donc, ce sujet inclusif, ce sujet diversité, ça, c'est un truc sur lequel très tôt, tu as été actif. Est-ce que tu as eu des bonnes surprises et des moins bonnes surprises?
J'ai pas eu de mauvaises surprises, donc je touche du bois pour l'instant, ça s'est toujours très bien passé. J'ai généralement eu que des super bonnes surprises. Et en fait, à la base, je l'ai fait de manière assez, je dirais pas égoïste, mais vraiment dans le pur intérêt checkout. Ouais, opportuniste, dans le sens où, au final, quand tu vas vendre à Manchester, ça fait vraiment plus de sens d'avoir quelqu'un qui vient du Nord quand tu sais les différences culturelles et sociales qu'il y a entre Londres et Manchester. Donc, embaucher un sales, j'embauchais des sales qui étaient vendeurs chez Vodafone à l'époque, tu vois, donc... À chaque fois qu'ils parlaient à un prospect, je les entendais répéter le prénom du prospect parce que c'est ce qu'on leur avait appris dans la téléphonie pour s'assurer que la personne était toujours engagée. Je disais, là, tu vends du B2B Enterprise Sales, c'est pas du tout la même chose. Enfin, tu parles pas à une grand-mère de 90 ans qui doit renouveler son forfait. Et c'était les challenges un peu à adresser. Mais ces personnes ont tellement faim, elles sont tellement loyales et hard worker, que pour nous, ça a été un no-brainer. Donc, l'opportunité à la base, c'était de s'assurer qu'on pouvait avoir un sales qui fitait parfaitement à l'audience qu'on avait. Et l'audience, elle changeait tellement qu'on se devait d'avoir des profils vraiment complémentaires avec des backgrounds sociaux et éducatifs complètement différents.
D'accord, ça t'a mis du temps à le comprendre. J'imagine que sur les US, tu vas avoir un petit 2-3 mois, parce que les Américains sont super forts pour se vendre en particulier. Donc, il va falloir quand même s'adapter aux cultures locales. Donc ça va être intéressant de voir comment tu vas prendre ce challenge, qui à mon avis est un vrai challenge, hein, de scaler une team sales aux US étant Frenchie avec une culture européenne. Je pense que même si t'es hyper data-driven et performance-driven, ça va être un vrai. Je pense que tu vas apprendre plein de
On
trucs.
le voit déjà.
Ça va être excitant.
Ouais. On le voit déjà. Bon, l'avantage, c'est que tout est great aux US. Donc, quand tu pars de là, tout va bien se passer. C'est vrai que les enjeux sont complètement différents. La façon de vendre l'est aussi. Du coup, c'est là où s'appuyer sur, tu vois, quand je disais que j'ai deux leaders, un Américain et Mathieu qui vient, je pense que selon moi, ça sera la bonne combinaison pour vraiment essayer de join les deux forces pour avoir quelque chose qui résonne vraiment auprès des Américains. Tu vois, le customer entertainment, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en Europe aujourd'hui. Alors qu'aux US, si tu envoies un prospect, est-ce que tu veux venir voir un match de basketball avec moi? Ils te répondent dans la seconde et c'est comme ça que tu crées la relation. Donc, on s'adapte, on prend le plus de feedback possible, j'essaye de parler le plus possible à d'autres sales leaders. Et voilà.
D'accord, donc ça c'est un truc que tu fais là, tu essaies d'embrasser l'écosystème US pour essayer de. Et tu le fais par mafia de nationalité. Donc est-ce que tu vas pinguer des Français de l'écosystème scale-up aux US, je pense, je sais pas moi, à Dataitu, je pense à des boîtes qui commencent à bien performer là-bas, en disant, OK, explique-moi comment ça marche de ton côté pour un peu. Ou est-ce que tu fais par vertical en disant. Des concurrents plus ou moins directs dans lesquels tu vas essayer d'apprendre. Comment tu fais ça?
Je le fais plus par vertical. Je suis au board donc de Merchant Risk Council, qui est un peu l'association pour tous les grands marchands et e-commerce en ligne, ce qui me permet donc de un avoir accès à tous mes compétiteurs et de comprendre un peu comment ils fonctionnent, et de deux aussi avoir accès à tous les plus gros marchands qui me partagent de manière assez transparente leur expérience vis-à-vis des sales. Pour moi, c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est lorsque tu as signé avec un nouveau prestataire, qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Est-ce que c'était pour l'humain, la personne? Est-ce que c'était le produit? Il y a vraiment des réponses qui vont être complètement différentes selon la région. Et la majorité du temps aux US, tu vas entendre l'humain et la personne plus qu'en Europe où ils se concentreront sur le produit. Et c'est là où il va vraiment falloir s'adapter.
D'accord, c'est intéressant ça. Et puis peut-être une dernière question, parce que je sais que tu dois prendre un avion. Ton rôle d'un point de vue transversalité, toujours bien sûr avec Guillaume, le CEO fondateur, comment ça évolue? Parce qu'aujourd'hui finalement, c'est devenu quand même, ça a pris une autre dimension. Vous allez être sur, je sais pas combien de régions dans le monde avec des time zones différentes. Comment ça fonctionne d'un point de vue et puis vous êtes structuré j'imagine autour d'un board enfin tu vois il y a des choses de plus en plus un peu plus pour bah, préparer la boîte à faire une IPO tu forcément tu, c'est des exercices qu'il faut quand même qui sont un peu mandatory pour pouvoir grandir le plus vite possible. Comment toi t'as évolué là-dedans et comment tu discutes avec tes pairs côté marketing, côté product, côté tech, côté tous ces sujets-là, et que ce soit nos amis de Process Out qui ont aussi step up un peu dans l'organisation. Comment ce niveau d'organisation a évolué? Comment toi t'as pris une place là-dedans est-ce que tu commences à faire plus de stratégie, pas forcément de la politique, mais parce que je pense qu'il faut faire du business, donc t'as pas le temps de faire de politique. Mais comment ça a évolué ce sujet-là? Parce que c'est un sujet qui forcément doit te prendre un peu de bande passante et qui est clé pour la suite, quoi.
Ça prend énormément de bandes passantes, mais ça a un impact qui est aussi, enfin, qui est tout aussi énorme. Donc, je pense que c'est du bon temps investi. Les interactions avec les équipes, elles diffèrent selon le leader. Tu vois, par exemple, en produit, notre CPO, il a mis en place des QBR qui fait qu'à chaque quarter, on a une review avec les équipes produits sur lesquelles on peut input, contribuer à l'élaboration de la roadmap pour les quarters suivants et vraiment échanger. d'un point de vue marketing, c'est des interactions qui sont beaucoup plus à la semaine parce qu'on se doit d'être super agile et de réagir super rapidement sur à la fois quelque chose qui fonctionne très bien auprès des prospects. Donc, créer vraiment de l'alignement entre ma team qui fait du lead farming et de la création d'opportunités et notre marketing team pour qu'on ait le même messaging et que ça soit cohérent. Et après, sur toutes les autres équipes, le format diffère, mais cette communication, elle est vraiment primordiale. Et je pense que les leaders qu'on a embauchés récemment, c'est eux qui nous permettent aussi d'amener cette structure. Parce que, enfin, tu vois, je suis jeune et même avec toutes les meilleures intentions du monde, j'ai jamais emmené une boîte à l'IPO et c'est là où moi j'ai besoin d'aide. Donc, j'essaye plus d'être un enableur et de partager ma connaissance de checkout et du paiement pour s'assurer que les nouvelles personnes qu'on embauche puissent être le plus efficaces le plus rapidement possible. C'est un peu comme ça que je vois mon rôle.
D'accord. Et sur les recrues un peu plus seniors, parce que j'imagine qu'aussi, si tu es dans un track IPO, tu dois forcément en fait avoir des gens aussi qui ont un niveau de seniorité, non pas pour faire du sales et exploiter son réseau, mais juste pour leverager une expérience en fait de quand t'as déjà vécu quand t'as un CFO que t'as déjà vécu une, deux, trois IPO. J'imagine que ta valeur est très très stratégique parce qu'en fait les entrepreneurs qui veulent aller dans ce track-là en fait vont gagner beaucoup beaucoup de temps sur ces sujets-là. Il y a quelques postes comme ça qui sont forcément où t'es obligé de prendre des ressources extérieures non formées par checkout. Ça, tu vois, il faut que la greffe prenne. Toi, est-ce que sur les sujets business, tu vois des sujets dans lesquels forcément tu vas essayer de pick up ce genre de niveau de seniorité est-ce que ça te concerne ou pas directement côté vente?
Ça me concerne pas directement du côté vente parce que on se fait très bien accompagner par une équipe de sales ops qui pour le coup en tout cas la leader de notre équipe sales ops a déjà fait une IPO et sait vraiment comment structurer le forecasting, etc. Je pense les équipes sur lesquelles ça a le plus gros où l'impact était nécessaire, c'était Chief Financial Officer. On a eu Céline qui nous a rejoint, qui est une machine de guerre.
J'ai entendu parler d'elle. Je vais essayer de l'avoir en podcast aussi. Apparemment, elle est encore tout aussi impressionnant que Guillaume. Je crois que c'est Mathieu qui me disait qu'elle était, c'était outstanding.
Ouais. Ouais, c'est assez impressionnant. Et on avait pourtant un CFO que tu vois, qui était vraiment super avant, qui nous a emmené jusque là aussi. Donc, kudos à lui aussi. Mais tu vois vraiment la différence entre quelqu'un qui l'a déjà fait et quelqu'un qui découvre. Je pense que ce layering, il était un peu nécessaire. Mais ça crée tellement de valeur pour nous et pour tous les employés et leur equity que je pense que ça crée pas trop de problèmes.
C'est top. Écoute, j'ai passé un super moment. Je pense que tout le monde a dû passer un très bon moment avec nous deux, mais avec toi en particulier. Je vois le drive que tu as et la sincérité que tu as dans ton engagement. Et ça, c'est vraiment un truc qui est assez assez lumineux, donc je voulais te le dire. Voilà. Donc je te souhaite vraiment beaucoup beaucoup de réussite sur ce challenge US parce que je pense que tu vas apprendre plein de trucs. Et donc ravi de te connecter d'ailleurs avec Marc Batty qui avait fait tous les sales aux US chez DataIQ.
Avec plaisir.
C'est une, avec plaisir. Il a vraiment vécu tout le scaling. Ça va être intéressant de partager tout ça. Et à l'occasion, reconnectons-nous pour voir comment un an après ça a fonctionné. Et puis, je suis sûr qu'on va avoir plein d'occasions d'échanger. Merci beaucoup, Antoine.
Avec plaisir. À très vite. C'est un plaisir. Merci. Ciao, Kamel.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao!